Nous allons désormais commencer la deuxième table ronde intitulée « La vie à l'œuvre » en compagnie de Salvatore D'Onofrio, Teresa Castro, Lorraine Camilli et Lia Giraud. Je voudrais justifier pour quelles raisons nous avons parlé de la vie, nous proposons de parler de la vie à l'œuvre en expliquant les choses de la façon suivante. Avant d'être un objet pour la science, la vie se manifeste à travers une multiplicité de formes, de couleurs, de textures, d'odeurs et de saveurs. Les êtres vivants et le monde naturel en général constituent une source d'expériences sensorielles que les humains n'ont cessé d'interroger au fil du temps. Parallèlement à la démarche scientifique, des domaines tels que l'art, la technique et le rite constituent des pratiques privilégiées dans cette quête d'intelligibilité. En dépit de leurs différences, ces domaines ont en commun de mobiliser de complexes activités techniques pour observer les êtres vivants, pour les imiter et pour chercher à exercer une influence sur eux. Par conséquent, si la multiplicité des êtres vivants atteste que la vie est sans cesse à l'œuvre, les humains ne cessent de leur côté d'œuvrer de mille manières en dépensant des trésors d'inventivité pour apprendre à mieux appréhender ce phénomène protéiforme. Et pour donc en parler, nous avons donc le plaisir de nous entretenir avec quatre nouveaux intervenants. Alors pour commencer, je vais donner la parole à Salvatore D'Onofrio, qui est professeur d'anthropologie à l'Université de Palerme et chercheur associé au laboratoire d'anthropologie sociale. Il va nous montrer comment, depuis des temps très anciens, l'énigme de la vie fait l'objet d'une intense élaboration rituelle et symbolique.
Merci, cher Périg. Par rapport à la première table ronde, on essaiera de descendre un peu plus sur terre, voire sous terre, car je souhaite mettre en regard deux processus vitaux, la germination et la fécondité, à travers le prisme de l'opposition masculin-féminin qui les sous-tend. Mes analyses mobilisent la notion de manipulation symbolique et plus largement, elles affirment la valeur heuristique de la comparaison anthropologique depuis le père Lafito jusqu'à Philippe Descola qui en a fait l'objet de son dernier cours au Collège de France, la comparaison. Je suis parti de l'étude d'un rituel d'autoflagellation calabrais, masculine, qui se déroule encore de nos jours lors de la Semaine Sainte dans quelques villages de Calabre. Or, ce qui saute aux yeux, ce sang que vous voyez jaillir dans une des images, s'explique par un jeu de substances vitales, ce qui montre bien la gentilité du corps humain dans le cadre rituel.
Mais alors, pour avoir lu les Fluides d'Aristote, qui est l'ouvrage dont on voit la couverture, je crois savoir que, outre ce sang qui jaillit, il y a d'autres éléments qui sont importants dans cette configuration rituelle.
Oui, en effet, il y a un autre élément qui risque de passer inaperçu, alors qu'il est très important et il possède un rôle fondamental dans les rituels dont on va parler. Il s'agit des pousses de blé, d'orge, d'autres céréales ou légumineuses, que les femmes font germer dans l'obscurité de leur maison pendant 2 à 3 semaines lors de la Semaine Sainte. Elle place ainsi ses pousses dans l'autel du reposoir. Tous ceux qui connaissent la liturgie catholique savent de quoi s'agit-il. Et ces pousses nous ramenèrent, lorsque j'ai fait cette enquête, nous ramenèrent au Proche-Orient ancien, et notamment on est en Égypte, dans l'Égypte ptolémaïque, et en Grèce ancienne, où on les appelait, ces pousses, les jardins d'Adonis, on se souvient d'un livre important de Marcel de Tienne à cet égard. Dans ces contextes, donc, nous sommes dans des contextes différenciés, très différenciés culturellement. Mais on a découvert qu'une manipulation symbolique des processus vitaux génère, vise à fabriquer les mêmes choses, des jardins miniatures qui sont censés participer au renouveau de la végétation et du temps. L'objectif, quel est l'objectif ? L'objectif est de relier la vitalité des corps avec la vitalité de la nature, de manière qu'ils puissent, les corps et la nature, coagir dans le même contexte rituel. Et
Mais c'est un phénomène ou un cadre rituel qui n'est pas simplement quelque chose qui appartient à l'histoire, puisque tu as même documenté toi-même à Paris et dans d'autres lieux du monde méditerranéen des pratiques similaires à l'heure actuelle.
Et
tu en parles justement dans l'ouvrage Le Matin des Dieux.
Et même au-delà de la Méditerranée, parce qu'actuellement il y a 300 millions de personnes, pas 30 millions ni 30 000, 300 millions de personnes qui fabriquent ces pousses dans des espaces qui étaient autrefois composés l'ancien empire perse. Donc c'est les Iraniens, les Tadjiks, les Kazakhs et tout le peuple qui vivent dans cette région d'Asie. En Iran, ces pousses, appelées sabzé, sont placées sur une table dressée à l'occasion de la fête de Nowruz, littéralement signifie le nouveau jour, et qui marque l'arrivée du printemps. C'est une fête du printemps. Cette table, appelée sofré haftassin, littéralement signifie la nappe des sept S, cette table doit présenter au moins sept choses qui commencent par la lettre S de l'alphabet persan. 13 jours après Nowruz, en Iran et dans la diaspora, par exemple à Paris, au Bois de Boulogne ou à la Villette, tout le monde va s'en passer une journée en plein air, en dansant, jouant, en accomplissant le dernier acte rituel qui consiste à jeter dans les eaux du lac, dans ce cas-là, ou du canal, à Paris, à jeter les jeunes, à jeter les pousses, comment dirais-je, une fois que les jeunes filles ont tressé des brins pour souhaiter de se marier dans l'année qui commence. Les pousses sont ainsi un caractère ambivalent parce que d'une part, ce geste est un geste propitiatoire, mais de l'autre, donc lié à la reproduction, de l'autre, le fait de le jeter dans l'eau, à la Villette par exemple, revient à se libérer des maux qui se sont cumulés dans l'année qui s'achève. Et c'est partout la même chose. On trouve encore plus loin que l'Asie centrale, on trouve une configuration rituelle similaire, par exemple en Inde du Sud, d'où probablement on peut imaginer que la tradition des pousses s'est répandue et où elles sont encore utilisées lors d'un rituel plutôt féminin dans un cadre cérémoniel appelé Mulai Pari. Les indianistes savent de quoi il s'agit, d'autant plus que c'est lui Dumont qui avait travaillé. Et à la fin d'un parcours rituel intéressant, ces pousses seront immergées dans l'eau. Or, ce geste de jeter les pousses dans les eaux courantes, qui est attesté aussi dans la Grèce ancienne, est attesté par le rabbin Rashi lors des fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour chez les Juifs du XIe siècle et encore de nos jours dans une seule petite ville de Sardaigne appelée Barisardo. Vous voyez le cortège cérémoniel d'un côté, de l'autre le moment où les pousses sont jetées dans la mer. En Provence, en France donc, les pousses sont appelées, et seulement en Provence, pas dans d'autres régions françaises, et ça demanderait une explication particulière, nous passons là-dessus, sont appelées blé de la Sainte Barbe et sont placées à côté des 13 desserts sur la table du grand souper du 24, donc la veille, puis dans la crèche de Noël. De même, au Liban, et aussi des Libanais parisiens qui le font, au Lyonnais, au Liban et dans quelques petites villes siciliennes.
Alors, ce qui est assez fascinant dans cette approche, c'est qu'en développant une approche à la fois historique et comparatiste, tu arrives à trouver un fond symbolique et rituel qui est commun à des religions très différentes. Et ce fond, en fait, s'articule autour d'une interprétation de la vie et des processus vitaux à l'œuvre à la fois dans les corps humains, mais aussi dans la nature et dans les végétaux. Alors peut-être que pour revenir sur cette première image, tu pourrais nous préciser quel est le lien entre les pousses, d'une part, et le sang qui coule.
Pour cela faire, j'évoquerai trois situations où les pousses apparaissent, et trois cas exemplaires de ce rapport entre les pousses et le sang. D'une part, c'est le Népal, la Calabre et encore l'Iran. Dans le district de Dading, au Népal, comme dans beaucoup d'autres endroits en Inde, hein, les femmes font germer à la maison des pousses d'orge qui seront placées au temple, à l'endroit même où l'on verse le sang d'animaux sacrifiés. Donc il y a cette conjonction symboliquement significative entre le sang d'animaux et les pousses. Mais déplaçons-nous à Nocera Terinei, ça s'appelle comme ça cette petite ville calabraise de 5000 habitants, où j'ai documenté la variante la plus accomplie, pourrait-on dire, de l'utilisation de ces pousses. En parcourant la petite ville le vendredi soir ou le samedi matin de Pâques, des hommes mûrs se flagellent devant la statue de la Vierge, une Pietà, dans d'autres endroits, ainsi que devant les pousses que, pour l'occasion, ont été placées par les femmes en dehors de l'église, alors que normalement restent dans l'église. C'est ainsi que les hommes, parce qu'il faut, comme disait Périg, interpréter la chose, c'est ainsi que les hommes cherchent à s'emparer, partout dans le monde ils font ça, symboliquement, des pouvoirs qui leur échappent et qui renvoient à la physiologie des femmes. Rester enceinte, mettre au monde, allaiter, c'est une affaire de femmes, pas d'hommes, qui ont envie de ces choses-là qu'ils ne possèdent pas. Un cordon qui part de leur dos, du dos de ces hommes qui s'autoflagellent, lie les flagellants au nombril d'un de leurs fils, comme si ceux-ci avaient été remis au monde par leur père. Et il y a plus. Il y a plus parce que les femmes qui pratiquent une culture éphémère et stérile, parce que au bout de quelques jours, les pousses vont flétrir, non ? Et en simulant un processus et des techniques qui reviennent habituellement aux hommes, alors que ceux-ci, les hommes, font couler rituellement une fois tous les ans leur sang, comme il arrive aux femmes mensuellement entre la puberté et la ménopause. En fait, en Iran, il aurait pu aller de même. Alors que les flagellations masculines du jour de la Shura, dont vous pourrez regarder une des images, et la culture féminine des pousses à l'occasion de Nowruz sont restées historiquement isolées. Mais rien n'empêche de penser que des contingences historiques auraient pu pousser voilà, à un rapprochement, comme en Calabre, le modèle le plus accompli.
On conclut là-dessus, oui. Parce que je sais que tu as des images de la ville de Paris qu'on pourra regarder tout à l'heure lors de la discussion, mais pour pouvoir... Oui, on les regardera tout à l'heure. Pour pouvoir, je dirais, faire le tour de table, justement, oui, même si la table...
N'imagine pas qu'à Paris, il y a 30 000 personnes qui défilent à côté du métro La Chapelle tous les ans pour fêter Ganesh.
Donc on reparlera, je pense, lors du tour de table de cette dimension très contemporaine. Et nous allons désormais envisager une autre forme d'imitation des êtres vivants et de modélisation de la vie à l'œuvre dans un champ de la pratique dont on entend beaucoup parler actuellement, le biomimétisme. Et pour nous éclairer sur cette question, je me tourne vers Lorraine Camilli, qui prépare une thèse en anthropologie sociale à l'EHESS sur les pratiques biomimétiques en France. Alors peut-être que vous pouvez éclairer notre lanterne en nous disant qu'est-ce que le biomimétisme et pourquoi ce terme est-il devenu si présent dans les discours contemporains, en particulier dans le domaine de la science et de l'industrie.
Oui, bien sûr. Alors le biomimétisme, c'est une forme récente et contemporaine de pratique d'imitation du vivant. J'insiste sur le mot récent. Et sa définition minimale consiste à s'inspirer du vivant pour développer des innovations techniques qui soient plus respectueuses de l'environnement et aussi plus performantes. Donc l'idée, c'est de concilier un souci écologique et le développement économique. La première à en avoir parlé sous cette forme et avoir formalisé l'approche biomimétique qui n'est pas si nouvelle, c'est une biologiste américaine qui s'appelle Janine Benyus et qui a publié un livre important dans ce domaine en 1997. Et c'est vraiment un guide de qu'est-ce que doit être le biomimétisme. Notamment, il faut respecter des principes du vivant, ce qu'elle appelle des principes du vivant, et qu'elle présente comme un cahier des charges pour toute production humaine biomimétique. Donc ces principes du vivant, c'est par exemple le fait que la nature fonctionne à l'énergie solaire, qu'elle recycle tout, qu'elle récompense la collaboration, etc. Pour Benyus, en fait, il s'agit de considérer la nature non plus comme une source de matériaux à extraire, mais comme un modèle, un maître dont il faut imiter les réalisations, qui sont le fruit de, je cite, 3,8 milliards d'années de recherche et développement. 3,8 milliards d'années étant le moment où la vie serait apparue. Donc c'est un discours qui est séduisant, qui est présenté comme une solution aux crises écologiques et économiques contemporaines, avec une proposition de reconnexion à la nature. Et on parle beaucoup aujourd'hui des promesses du biomimétisme, ce qui dit bien la dimension d'espoir que porte cette approche.
Alors vous avez peut-être des exemples à présenter justement de cette démarche biomimétique.
Alors là, on a des exemples standards, hyper connus de ce qu'est le biomimétisme et très institutionnalisés. Tout en haut, c'est un exemple très connu, celui du Velcro, donc du Scratch, qui est connu pour avoir été inspiré à son inventeur, un ingénieur suisse, par les petits crochets du fruit de la bardane, qui s'était accroché dans les poils de son chien lors d'une balade. En dessous, on a le célèbre TGV japonais, le Shinkansen, qui est connu pour avoir été inspiré par la forme du bec du martin-pêcheur, qui est capable en fait de pénétrer un milieu plus dense, donc passer de l'air à l'eau sans éclaboussure et sans faire de bruit. Et donc là, le train, l'objectif, c'était d'avoir des économies d'énergie. On a ensuite un exemple plus récent de robots homards qui sont développés depuis les années 2000 par l'armée américaine. Donc on est sur un autre registre, c'est vraiment des inventions militaires qui sont capables de se déplacer sur les fonds marins pour réaliser des opérations de déminage. Et un dernier exemple français, cette fois, c'est une entreprise d'énergie qui a inventé, on ne voit pas très bien, qui a mis au point une hydrolienne qui n'est pas à hélice, mais qui ondule comme les mammifères marins et les poissons. Et l'idée, c'est de pouvoir capter cette source d'énergie pour une énergie propre, plus écologique donc.
Mais alors, l'idée d'imiter le vivant ou d'imiter les êtres vivants ou d'imiter les processus vitaux d'une manière générale, c'est une idée qu'on voit apparaître dans d'autres sociétés. Est-ce que vous pourriez donner des exemples là-dessus ?
Oui, alors ça, c'est une idée très importante parce que les discours du biomimétisme font remonter le biomimétisme à Léonard de Vinci et à ses machines volantes. Mais ça n'est pas le premier biomiméticien avéré et on trouve effectivement des pratiques d'imitation un peu partout dans le monde, ce qui justifie en fait l'approche anthropologique comparatiste et en particulier l'approche de l'anthropologie de la vie qui s'intéresse au bios du biomimétisme. L'idée c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui est imité, comment, quelle technique, quelle forme d'imitation et quels usages sociaux. On trouve des pratiques d'imitation d'êtres vivants, donc vraiment d'organismes. Là, ce sont des exemples tirés des recherches d'une anthropologue qui s'appelle Roberte Amaillon, qui a travaillé sur le chamanisme en Sibérie. Tout à gauche, on a une couronne de chaman évinc, donc tout en haut, on voit les ramures du cerf. Ça représente des ramures de cerf. Et à droite, c'est une figurine d'ours en bois qui a pour fonction d'être le support de l'âme de l'ours, censé dévorer les maladies des enfants. Mais le chamanisme sibérien met en jeu en fait encore d'autres formes d'imitation, comme la pantomime. Donc il s'agit de mimer le voyage dans la surnature quand le chaman chamanise, ou encore des techniques vocales. Quand le chaman chante, il imite des cris d'animaux, en particulier le cerf. On a aussi des exemples d'imitation d'écosystèmes, donc on est à un autre niveau d'imitation. Donc ça, c'est une image de Philippe Descola, donc qui était au Collège de France jusqu'à peu, et qui a travaillé chez les atchuars en Amazonie. Et les atchuars, ils ont des jardins qui sont fabriqués sur le modèle des forêts, c'est-à-dire que l'organisation spatiale de ces jardins reproduit celle de l'écosystème forestier avec un couvert végétal, des buissons de diverses hauteurs et une canopée. Et on trouve des exemples similaires à Java, qui ont été étudiés par l'anthropologue Clifford Geertz, de ces essarts de polyculture tropicaux qui reproduisent à la fois l'organisation spatiale de l'écosystème forestier et sa performance énergétique.
Donc en fait, en consultant la biographie ethnographique et historique et en lisant les travaux des ethnologues, on se rend compte que la relation au vivant est, extrêmement complexe lorsqu'on regarde les choses d'une façon détaillée, et que le biomimétisme actuel demande à être mis en perspective dans un cadre plus ample pour essayer de comprendre effectivement les conceptions de la vie associées et des usages sociaux et des types de technologies. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point très riche. Et alors l'originalité de votre démarche, c'est que bon, non seulement vous abordez toutes ces questions à partir d'une recherche analytique sur la littérature existante, mais vous menez vous-même des expériences ethnographiques sur des terrains en France. Alors peut-être vous pourriez nous expliquer où vous avez mené votre terrain et quelles conclusions sur le biomimétisme vous avez pu en tirer.
Oui, tout à fait. Alors là, on est dans le sud de la France, dans un laboratoire qui s'appelle Chimeco, donc le laboratoire de chimie bio-inspirée et d'innovation écologique de Grabel, qui est dirigé par la professeure Claude Grison, qui est aussi directrice de recherche au CNRS. Et donc, depuis 10 ans, le laboratoire Chimeco mène des expériences en restauration écologique d'anciens sites miniers dégradés dans le sud de la France. Donc, vous voyez sur la première photo en haut à gauche, la terre est rouge, nue. Donc, c'est le signe que les sols sont très toxiques et très et stériles, en fait. Donc là, on a un cas de pollution au plomb, au zinc et au cadmium. Mais sur ces sols arrivent à pousser des plantes. Donc ça, c'est la photo juste en dessous. Des plantes dites hyper-accumulatrices de métaux lourds parce qu'elles sont capables d'absorber dans leurs racines et de stocker dans leurs feuilles tous ces éléments métalliques toxiques. Et donc ce que fait le laboratoire, c'est qu'ils se sont inspirés de la façon dont fonctionnent ces plantes, à savoir qu'elles donc elles absorbent, pour créer des filtres dépolluants, pour dépolluer les effluents miniers. Donc c'est l'eau qui passe dans les anciennes mines, qui ruisselle et qui récupère tous les éléments toxiques avant de se jeter dans la rivière du village. Donc l'idée, c'est de créer des filtres pour faire en sorte que l'eau qui sorte ne soit plus polluée. Et donc je travaille avec eux depuis bientôt 2 ans. Et la particularité, c'est que moi, je ne suis pas chimiste et on travaille en collaboration dans une expérience interdisciplinaire. Et j'ai aussi mené une enquête dans un autre monde très différent. Donc là, on n'est plus du tout dans le monde de l'industrie, des sciences ou des techniques. Ce que vous avez à gauche, c'est une veilleuse bioluminescente qui a été fabriquée par une biodesigneuse qui s'appelle Elena Amalric, qui travaille dans le Vercors, donc dans un milieu rural. Et donc dans cette veilleuse, il y a un champignon bioluminescent qui vit et qui fournit de l'énergie, enfin qui produit de la lumière la nuit. En fait, il en produit tout le temps, mais nous, on la voit que la nuit. Et en fait, dans cette bulle, il y a un mini-écosystème, puisque le champignon fonctionne en symbiose avec une mouche qui l'aide à dégrader le bois dont il faut le nourrir. Donc c'est un objet assez précieux d'artisanat. Et c'est un exemple de biomimétisme qui est très différent de ce que j'ai pu vous présenter juste avant. C'est un objet spécifique dans le sens où il appelle le soin. En fait, il faut s'en occuper, il faut s'occuper du champignon. Et donc, c'est un artefact qui a même de questionner nos rapports avec le vivant et potentiellement de créer de nouvelles relations avec ce monde vivant. Voilà.
C'est une très bonne conclusion, le fait qu'effectivement, dans l'imitation du vivant, dans la façon d'extraire des éléments saillants, c'est aussi un certain rapport qui se définit. Et une des conclusions que l'on peut tirer de cette présentation sur le biomimétisme est que l'observation des êtres vivants dépend étroitement, et là je prépare l'intervention de la prochaine intervenante, Teresa Castro, donc on constate que l'observation des êtres vivants dépend étroitement d'un regard plus ou moins technique que l'on porte sur la nature, et on peut aussi dire que de manière littérale, et c'est ce qu'on va voir avec Teresa dans un instant, mais de manière littérale, des inventions techniques telles que la photographie et le cinéma permettent aussi d'observer de manière radicalement nouvelle les êtres vivants. Et c'est en particulier les végétaux, longtemps envisagés comme une forme de vie inférieure, qui apparaissent sur un jour nouveau au tournant du XXe siècle. Alors, pour présenter certains moments clés de cette fascinante histoire, nous allons désormais avoir le plaisir d'écouter Teresa Castro, qui est maître de conférence à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et spécialiste du cinéma animiste.
Merci beaucoup. Oui, effectivement. Alors, je vais me positionner en tant que spécialiste de culture visuelle, donc pas seulement le cinéma, mais aussi la culture visuelle dans un sens plus large. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est le rôle souvent que les images jouent dans l'histoire même aussi de la vulgarisation des idées scientifiques, mais j'irai un peu plus loin, parfois dans l'ouverture de pistes autour de questions scientifiques. Et donc, je me suis effectivement intéressée à la question végétale, à la question de la vie végétale, en sachant que pour ce qui est du cinéma, on pourrait dire grosso modo, donc, alors pourquoi le cinéma, c'est la question que j'ai posée, parce que le cinéma est donc une médiation technique entre le vivant et le non-vivant, entre l'humain et le non-humain, parce que le cinéma aussi révèle des vies. Cette dimension heuristique a été effectivement très importante, en particulier au début du XXe siècle, c'est-à-dire le cinéma nous permet, à la suite déjà de cette autre médiation technique qui est celle de la photographie, de voir plus, de voir autrement, de voir plus longtemps, de voir selon, alors avec une temporalité qui nous permet, par exemple grâce à l'accéléré, de voir des choses qu'on ne pourrait pas voir autrement. Et que, en ce sens-là, le cinéma fabrique, donc révèle des vies, et bien sûr, il en fabrique, il crée des fictions autour de ces vies. Je pense qu'on a déjà évoqué la question donc, de la science-fiction. Donc voilà un petit aperçu de ce que je viens de dire. Alors, la question est particulièrement intéressante quand on se pose la question de la vie végétale. Alors, Péric, tu viens de rappeler qu'effectivement, selon la tradition philosophique occidentale, la vie végétale a très souvent, et elle est encore jugée souvent comme étant inférieure à la vie animale. À partir du 19e siècle, il y a toute une série d'études qui se multiplient, en particulier à la deuxième moitié, sur des questions du mouvement des plantes. Et là, je vais... Oui, ok, on saute cette autre diapo. Je ferai remonter en fait cette question à l'utilisation de la méthode graphique, qui est célèbre méthode non pas inventée, mais effectivement considérablement développée par Étienne Jules Marais, que vous connaissez sans doute, et qui va donc ouvrir la possibilité à l'étude en fait des mouvements du végétaux. Hein, c'est la question qui m'a plus spécifiquement intéressé parce que le cinéma va jouer un rôle très important là-dessus. Et donc cette méthode graphique permet effectivement de visualiser et documenter pour la première fois toute l'amplitude et la complexité des mouvements des végétaux. Et c'est là, en particulier dans ce livre de Darwin sur la question de The Power of Motion in Plants, qui est un livre très important, où Darwin conclut en faisant une proposition radicale et polémique, à savoir que la racine des plantes se comporte presque comme si c'était en cerveau. Voilà. Et donc, il y aura un énorme débat autour de ça. Mais donc, cela ouvre cette possibilité donc de l'intelligence végétale, entre beaucoup de guillemets. Il y a beaucoup de débats autour de ça aujourd'hui qu'il faudrait rappeler. Donc, voici encore quelques exemples de l'utilisation de cette méthode graphique. Hein, ici, avec avant en particulier, donc en savant indien très important, qui est Sir Jagadish Chander Bose, qui a donc en 1927 publié ce livre avec des magnifiques illustrations sur ce type de questions. Alors là, on est en 1927, mais évidemment, l'invention du cinéma à la fin du 19e siècle vient permettre, élargir en fait aussi donc, la capacité à documenter la question du mouvement des végétaux. Assez vite, la caméra cinématographique est mise au service en fait de ce type d'expérience. On peut peut-être regarder un petit extrait de ce film de 1929 tourné par un biologiste français qui s'appelle Jean Commandon sur la croissance des végétaux. Alors, c'est pas le premier parce que les premiers films qu'on va tourner sur ces questions remontent à l'année 1897, mais ce film en particulier est extrêmement riche et Voilà, je pense qu'il illustre très bien certaines choses que j'aimerais rappeler. Donc ici, cette manipulation, je dirais, de l'échelle temporelle. Hein, alors la temporalité, disons, du règne végétal n'est pas la temporalité de l'humain. Et donc ce que le cinéma permet en étant en art du temps, comme on l'a souvent dit, c'est aussi donc de, en particulier, compresser le temps, et donc il nous permet de voir hein, à l'écran ce que j'ai déjà décrit comme étant l'amplitude et la complexité de ces mouvements. Et donc assez vite, en s'appuyant donc dans un premier temps sur les avancées facilitées par la méthode graphique et ensuite par le cinéma, la question de l'expressivité du mouvement végétal, voire de l'intentionnalité des êtres végétaux, commence à se poser. Donc, et je trouve que c'est voilà, la question intéressante. Donc, il y a énormément de propositions là-dessus. Et donc, là, une des questions que j'aimerais lancer rapidement autour de ça est la question de l'anthropomorphisme, parce qu'effectivement, du côté du cinéma en particulier, je vais le rappeler, c'est un problème. Donc, est-ce que ces propositions, et en particulier en ouvrant cette idée de l'intelligence du végétal, pour aller vite, est-ce qu'elle tombe dans cette erreur de l'anthropomorphisme? Et j'aimerais rappeler, juste faire une distinction importante, qui est à vrai dire un problème philosophique, la différence entre l'anthropomorphisme et l'anthropocentrisme. Hein. Les deux ne sont évidemment pas des termes équivalents. Et moi, je serais pour, mais encore une fois, c'est une question philosophique, défendre. Voilà, on pourrait dire aussi qu'il y a une forme d'amplitude d'anthropomorphisme. Il y a peut-être parfois un anthropomorphisme critique et un anthropomorphisme naïf. Hein, un anthropomorphisme naïf qui reconduirait l'idée de l'anthropocentrisme, hein, c'est par exemple ce qu'on va voir en particulier chez Walt Disney, qui est le grand artisan de cet anthropomorphisme au cinéma. On peut peut-être regarder un petit extrait. Je vais faire comme en cours et je parle en même temps, c'est horrible. Mais donc, en fait, voilà, Walt Disney est un des grands artisans de cet anthropomorphisme. Donc c'est du côté des animaux, évidemment, mais aussi dans ce film en particulier du côté des végétaux. Et ce qui est très intéressant, si vous avez envie de regarder le film en entier, vous le trouvez facilement sur Internet, c'est la transformation incessante des formes. Il y aura des problèmes d'incendie, et à un moment donné, les plantes deviennent des seaux d'eau. Voilà, donc, c'est vraiment intéressant là-dessus. Donc là, je dirais, dans le film qu'on vient juste d'entrevoir presque, c'est une forme d'anthropomorphisme naïf qui va dans le sens de l'anthropocentrisme, tandis qu'ici, on a peut-être affaire à un anthropomorphisme critique. Et je vous laisse juste regarder avant de commenter peut-être à la fin, pour garder en effet. Donc 1926, film allemand, Le miracle des fleurs. Film très très particulier, je dirais rapidement deux mots sur ça. Là, voilà, la musique est importante. Donc, c'est un film très particulier qui s'appuie donc sur la question de l'accéléré, du time-lapse, donc encore une fois sur la manipulation en fait de cette matière temps, et qui a la particularité donc de faire alterner. Donc, c'est un long métrage qui dure donc une heure et demie, et qui a donc cette particularité d'alterner des séquences en time-lapse avec ces images assez étonnantes, donc d'une troupe groupe de danseurs berlinois qui sont affiliés, à ce moment-là, on est dans les années 20, à l'école expressionniste. Et donc, le défi est de recréer à l'écran la gestualité végétale. Donc, c'est le corps de l'homme qui va essayer de se caler sur cette idée de l'expressivité du geste végétal. Donc, le film est très particulier. Il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Et il a été très important en Allemagne. Et il va... donc, il coïncide avec un moment où, du côté de la philosophie et dans certains courants, alors particulièrement développés en Allemagne, de la biologie, et qui va, alors plusieurs personnes vont se mettre à parler de la question des pulsions des végétaux. Donc, au-delà même de l'idée de l'expressivité, en fait, des gestes, ce film est venu appuyer cette hypothèse de des pulsions, en fait, qui seraient communes à la fois au végétal, à l'animal et à l'homme. Et donc, voilà, je pense que les images ont des pouvoirs et qu'elles posent par ailleurs ces questions intéressantes d'anthropocentrisme, anthropomorphisme.
Si, c'était vraiment passionnant de voir effectivement toutes ces déclinaisons de façon d'être animé, d'être vivant, depuis le mouvement, l'expression d'une intériorité, et puis ce partage d'une pulsion, voire tu as d'autres images aussi sur la question de l'intelligence des végétaux, bon, qu'on n'a pas le temps de voir aujourd'hui, mais on a un ouvrage qui paraît sur cette question dans un ou deux mois, donc vous pourrez évidemment le consulter. Alors on va passer à la dernière intervention. Alors, si le cinéma et la vidéo changent notre manière de représenter les êtres vivants, il existe d'autres pratiques artistiques qui ont en commun d'intervenir directement sur les processus vitaux. Les jardins d'agrément ou l'élevage sélectif de certaines espèces domestiques attestent que depuis longtemps, les humains poursuivent des objectifs esthétiques dans les interactions avec les êtres vivants. Au XXe siècle, s'est même développé un courant artistique appelé le bio-art qui repose sur ce type d'intervention. Pour nous en parler, nous avons désormais le plaisir d'écouter Lia Giraud, qui est une artiste qui a obtenu à l'École des arts décoratifs un doctorat en arts et sciences. Elle va nous présenter le type de projet artistique qu'elle réalise avec le vivant, en expliquant les collaborations interdisciplinaires qu'elle noue avec des scientifiques. Mais avant cela, peut-être pour donner des éléments de contextualisation, peut-être pourrais-tu nous expliquer brièvement à quoi correspondent les courants du bio-art et du biodesign.
Non, merci Périg. Je vais être très bref sur cette. Ça va faire un peu name dropping, cette description du bio-art. Donc je m'excuse pour les artistes que je vais citer et massacrer dans leur travail. Donc pour faire très rapide, le vivant a toujours été un sujet d'inspiration pour les artistes. Dans le courant des années 60, il est devenu objet de la création, notamment avec le développement des pratiques performatives. Et dans le courant des années 80, il y a un petit peu un changement de paradigme. Il devient un médium, au même titre que le dessin, que la peinture, que la photographie. C'est un médium que l'on va pouvoir désormais manipuler et dans lequel les processus vitaux et créatifs seront intimement liés. Alors c'est vraiment ce changement de paradigme qu'on va étudier ce soir en essayant de comprendre quels sont ces nouveaux enjeux, à la fois pratiques et conceptuels. Donc la frise que vous voyez ici pose les grandes figures et dates historiques de ce mouvement, dont la première occurrence est attribuée à Edward Station, qui était photographe et commissaire d'exposition, mais qui vouait une passion, alors pas si secrète, pour la sélection et l'hybridation des delphinium, qu'il a exposé au MoMA en 1937, et donc qui est considéré comme la première œuvre de bio-art. Mais le bio-art s'est surtout structuré dans la deuxième moitié des années 80, avec notamment Georges Gessert, qui, dans la lignée de Station, réalise de nouvelles espèces de fleurs hybrides, avec Joe Davis, premier artiste à modifier l'ADN de bactéries pour y encoder une image de Vénus. Dans les années 90, Orlan va remodeler son visage au fil de 9 opérations chirurgicales pour transformer son apparence physique. Brandon Ballanger, à peu près la même période, commence son recensement d'amphibiens ayant muté sous l'action de la pollution. Edward Katz conceptualise le terme de bio-art à l'issue de sa performance Time Capsule, où il va s'implanter sous la peau une puce qui le fait instantanément apparaître dans une base de données de chiens errants. Dans les années 2000, Aaron Katz et Yona Tsour débutent leur culture de tissus cellulaires pour créer leur première poupée semi-vivante. Donc c'est vraiment des poupées un peu entre la vie et la mort, un peu fragiles comme vous le voyez. À la même période, la même année, Marta de Menezes intervient sur des larves de papillons pour marquer artificiellement leurs ailes. C'est les petits cercles qu'on voit apparaître sur le papillon. Paul Vanhoos poursuit quant à lui ses travaux sur la migration d'ADN pour questionner les notions d'identité et de bioéconomie. Tandis qu'en 2011, donc plus récemment, Marion Laval-Janté, de Art orienté objet, s'injecte du sang de cheval pour dépasser les frontières interspécifiques. Alors voilà, c'est vraiment quelques exemples. Depuis le début des années 2000, ces pratiques n'ont cessé de se développer, de se diversifier, notamment avec l'essor plus fonctionnaliste du biodesign, dont tu as un petit peu parlé rapidement, Lorraine. Alors, on peut lire ici quelques noms. J'ai vraiment pas tout mis à une très longue liste de cette nouvelle génération d'artistes qui se définissent peut-être moins par l'acte transgressif et une approche subversive des technologies que par l'apparition d'une pensée que je pourrais qualifier d'écologique. L'enjeu n'est plus de diaboliser la technique et, en exhibant par exemple des biomonstres, mais plutôt d'imaginer de nouveaux modèles relationnels qui vont pouvoir articuler ensemble des processus vivants, techniques et sociaux. Donc mon projet sur l'algéographie, là, on passe à mon projet, explore la notion d'image vivante. L'image acquiert ici des propriétés biologiques puisque sa fabrication repose sur les qualités donc phototactiques, le déplacement de la lumière vers la lumière de ces microalgues, et photosynthétiques, donc leur capacité à se développer en fonction de la lumière. Donc elles sont exposées à un négatif et donc les micro-organismes vont réagir comme un support photosensible. Les cellules s'organisent selon différentes densités de lumière puis se multiplient pour développer littéralement l'image. Celle-ci est ensuite fixée sur un milieu nutritif qui va permettre la survie des algues. Alors, par la mise au point de ce procédé, qui va être en fait le début de mes collaborations qui seront nombreuses après avec des laboratoires de sciences, j'interroge l'évolution d'une technique, donc la photographie, qui semble intimement liée au processus biologique qui nous constitue. Alors ça va être notre existence liée à la mort ou encore une élaboration culturelle qui est en perpétuelle évolution et qui fait un petit peu écho au titre du projet qui s'appelle Culture. Mais si l'algéographie sous-tend ces processus, lorsqu'on se retrouve face à une petite boîte de pétri, on ne les voit pas vraiment. Donc le défi va être dans un second temps pour moi de mettre à l'œuvre l'accomplissement de ces processus. Alors là, ça va vraiment faire écho aux travaux que tu as pu montrer, Teresa, puisque j'ai créé en 2013 avec Benoît Vergin un petit programme informatique qui me permettait d'enregistrer l'apparition de l'image en alternant la projection du négatif avec un flash de lumière. Donc le flash déclenche un appareil photo qui capture régulièrement la position des algues sans pour autant les perturber. Et donc, c'était la slide suivante, Perrigue. Donc voilà, c'est ce petit système que vous voyez ici sous la forme d'un graphique, mais on va peut-être, voilà, il fonctionne en bas, donc il y a cette alternance de flash, et donc ça permet de créer ces images. Ah.
Il y avait un petit bug sur les, mais c'est bon, c'est donc là c'est un des dispositifs dans lesquels tu as utilisé D'accord. cette.
Oui, tout à fait. Donc voilà, juste pour expliquer, ce petit système va me permettre de compiler des films en temps réel pendant l'accomplissement d'une expérience. Et donc je vais me rendre compte au fil de mes expériences que finalement ce petit dispositif me permet de mettre en évidence la variabilité du vivant en fonction de l'heure de la journée. Et donc je vais exploiter cette variabilité dans cette installation qui s'appelle Immersion, qui a été réalisée avec Alexis de Raphaëlis. L'installation fait dialoguer une image vivante et un film qui traite d'un fait japonais, donc on appelle les évaporés. Ce sont des personnes qui font appel à des sociétés qui aident les gens à disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces. Donc, dans cette fiction, le personnage du film va tendre vers son devenir algue dans sa seconde vie, une mort symbolique qui marque un retour à la part biologique de lui-même. Donc, le temporium, si on peut passer la slide. Donc, le temporium, qui est cette grande structure que vous avez pu voir, gère la production continue des microalgues pendant l'exposition. Donc, elle alimente en culture, en cellules, l'aquarium dans lequel va se former cette algaïgraphie. Cette sculpture technique est vraiment pensée comme un miroir du protagoniste du film, un espèce de laboratoire biotechnique qui met en gestation un projet sensible, qui va être matérialisé par l'apparition de cette image dans l'aquarium. Donc, la durée du film va s'adapter au temps que mettent les algues pour révéler l'image. Donc, on a un film un peu élastique qui dure entre 30 et 45 minutes. Et puis, plusieurs timelapses de l'apparition de l'image vont être insérés en temps réel dans le film, faisant écho au devenir algue qui imprime progressivement le personnage. La dernière séquence du film va reprendre, on n'aura peut-être pas le temps de le voir, reprend en fait l'image qui est à l'intérieur de l'aquarium. Donc on a vraiment ces deux objets qui viennent se réunir à la fin dans un même espace-temps avant que l'algaïgraphie ne soit effacée et qu'un nouveau cycle commence.
Donc on va peut-être pour terminer, on peut avoir l'œuvre que tu présentes actuellement à la salle d'exposition qui s'appelle Le Cube, c'est ça donc,
Oui, alors ce que j'ai donc pas eu le temps de dire, c'est qu'effectivement, au fil des projets, cette question finalement du milieu est devenue de plus en plus importante. En fait, en faisant dialoguer des processus vivants et techniques, l'idée, c'est d'envisager leurs relations. Et donc, finalement, c'est un processus. Ce sont des processus sociaux qui vont être mis en œuvre dans ces projets. Et donc, c'est particulièrement le cas dans Écoumène, qui explore la relation à la fois biologique, technique et symbolique que l'individu entretient à l'étendue terrestre. En quelque sorte, notre manière d'habiter un territoire, mais au sens élargi du terme. Donc, cette proposition exposée au Cube, comme tu l'as dit, Péric, dévoile le récit d'une forêt de l'est de Madagascar qui est vouée à disparaître. Et donc, ce milieu évolutif a été transformé par l'action humaine, donc le colonialisme, puis l'exploitation intensive du bois. Et il va se raconter au fil des relations qui se tissent entre ses habitants, humains et non humains. Donc l'installation qui est montrée ici s'accompagne d'une pièce radiophonique qui dévoile cette histoire à plusieurs échelles, parce qu'on est autant dans l'occupation temporaire de l'espace figuratif par le végétal que dans la lutte des habitants défendant la forêt des braconniers, ou que dans une... Il y a vraiment des passages sonores qui invitent le spectateur à réfléchir aussi à sa position et donc à questionner son impuissance de spectateur face à la disparition de ce paysage qu'il écoute allongé dans les copeaux de bois. Donc, pour conclure, les processus sociaux qui sont mis en travail dans ces bio-œuvres dépassent finalement le cadre de l'œuvre. Si l'exposition du vivant instaure un nouveau rapport du public à l'œuvre, ce sont aussi les lieux d'exposition qui développent avec elle une relation de soins particulière. Donc ça m'intéresse. La création des algaïgraphies contribue aussi à réunir différents scientifiques et artistes autour de multiples formes sensibles qui vont vraiment du langage à l'outil en passant par des dispositifs ingénieriques. Donc, en connectant ces savoirs et savoir-faire, la bio-œuvre pourrait s'offrir, selon moi, comme un support pratique pour réinventer les relations que nous entretenons avec la diversité des vivants. Merci.
Merci beaucoup, Lia.